Mon premier souvenir de lecture, c'est pas un livre. C'est un souvenir de l'école maternelle, une année où j'avais ma mère comme institutrice. Et c'est le seul souvenir que j'ai de cette année-là. Avec un autre truc aussi, c'est qu'on nous avait emmené voir à la ferme d'à côté tuer le cochon. Mais c'est deux souvenirs qui se superposent, mais qui n'ont pas de. Et c'est un truc où j'étais debout. Toute la classe, donc les autres assis devant moi, j'étais le seul debout, et il fallait que je récite la fable à ma mère, devant. Donc ma mère n'était plus ma mère, je devais réciter la fable, et en plus c'était une histoire de crapaud, de hibou, de crapaud qui désobéissait à sa mère, donc c'était parfaitement symbolique tout ça. Et pour moi, je crois que c'est toujours resté le premier souvenir associé à un texte littéraire. Donc le dire, mais, et là évidemment je ne comprenais plus rien. Plus après toute cette fichue classe qui était autour, cette, même à 5 ans qui n'était pas tendre, qui disait chouchou, 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 alors que c'était le contraire. C'était... Et sinon, ouais, des souvenirs après, dès cette époque-là, et après ils sont continus, c'est-à-dire les souvenirs avec les livres d'enfance. J'ai des souvenirs visuels très précis d'illustrations de livres de jeunesse. Et pourtant, c'était fin des années 50, évidemment, je suis de 53. Donc c'était très simpliste. Mais je vois, y compris, la seule image qui me reste à peu près de cette époque-là, c'est deux gamins, évidemment garçon-fille, dans l'herbe, couchés, lisant eux-mêmes un livre d'images. Je ne sais pas pourquoi, mais cette image-là, pour moi, est associée à cette période-là. Après, il y a eu les Jules Verne et tous ces machins-là et tout ça.
Produit du décor, du mythe. Et celui qui est tourné en studio participe de ce mythe en produisant du réel. C'est pourquoi je propose à mon lecteur, avant même qu'il me suive dans mes déambulations, d'abandonner une notion qui nous encombre et nous empêche d'accéder à cette poétique des mégapoles que je poursuis avec ardeur et véhémence, celle d'authenticité. L'authenticité, on l'a déjà compris, est quelque chose de fantomatique quand on se promène dans ces villes de 10 à 20 millions d'habitants qui ont connu un développement vertigineux et qui sont le devenir urbain du monde. Non seulement dans certaines villes, il ne reste pas grand-chose d'ancien, tant ont été grands les bouleversements, les destructions, les recompositions, les reconstructions, les restaurations, mais la modernité même est constituée de strates hétérogènes, de copies, de transferts, d'interprétations, de déplacements, de variations, d'emprunts, de réélaborations. C'est vrai de Tokyo, du nouveau Shanghai, du nouveau Pékin, mais aussi de Sao Paulo et de bien d'autres villes. L'authentique est un produit de marketing. Si vous le voulez, je vous le livre ancien, avec la patine qui convient. Le mieux est de s'abandonner au charme de ces villes défaites et refaites et de se laisser désinstaller, surprendre. Allez parler d'authenticité à Las Vegas, qui est bien plus que cette sulfureuse capitale du jeu en plein désert. C'est la ville qui se développe le plus rapidement aux États-Unis. Elle draine aussi bien des manias, des classes moyennes, que des couches populaires qui viennent en famille voir les dernières réalisations de ce qu'on appelle aujourd'hui l'entertainment, les constructions ludiques d'hôtels à thème. Bruce Begou nous dit, d'ailleurs, que Las Vegas dessine notre horizon, notre avenir. Il écrit, sur la quatrième de couverture du livre qu'il a consacré à Las Vegas, « Nous sommes tous des habitants de Las ».
Non, c'est-à-dire, je suis quelqu'un... tiens, mais c'est marrant, parce que là, on est tout près de chez Michel Chaillou. Et je me souviens, quand j'ai publié « Sortie d'usine » en 82, je croisant Chaillou, faisant sa connaissance, ce type-là, d'ailleurs, que je connaissais pas, tout simplement, même si après, il y a eu une longue amitié, Michel m'a dit « C'est bien ton livre, mais maintenant, il faut que tu lises. » J'ai dit « Mais quoi, Michel ?» Il m'a répondu « Tout !» Et je me souviens l'avoir vu 10 ans ou 12 ans après, et je lui ai dit « Michel, est-ce que tu te souviens que tu m'avais dit ça ?» Et je lui ai dit « Je crois que ça y est, j'ai tout lu. »
Bien, en ce moment, je lis au hasard, parce que j'ai entrepris de relire ma bibliothèque, c'est que je deviens la bibliothèque du hasard. Et j'ai relu Théophile Gautier, des souvenirs littéraires, en particulier ce qu'il écrit sur Nerval, qui surprend un jour au coin d'une rue, en train de noter, chapeau à la main, en train de noter sans arrêt toutes sortes de détails invisibles pour les autres. Et il dit d'ailleurs, il avait les cheveux blancs qui frisottaient un peu, mais qui commençaient à se faire semer. Et bon, ça c'est dans, Ça a été publié au Seuil. Ce petit livre qui s'appelle « Souvenirs du romantisme » de Théophile Gautier. Je lis une biographie de Dickens par Chesterton. Je lis plein d'autres choses, hein, c'est difficile de les énumérer. Je lis Michelet. Je lis aussi « Histoire des idées » de, comment s'appelle-t-il, d'Edgar Quinet. « Histoire de mes idées ». Et c'est publié chez Flammarion il y a déjà assez longtemps. Mais en ce moment, je suis en train de fouiller les sondes. Je lis aussi les sondes de Rawson. Je fouille dans ma bibliothèque, je relis et j'ai l'impression de lire vraiment. Comme si les fois précédentes, je n'avais pas lu. Et même si avec l'âge, peu à peu, la lecture devenait plus profonde, et je ne sais pas. Puisque l'interlocuteur de la littérature, pour moi, c'est le temps. Et donc, en ce moment, je fouille énormément dans ma bibliothèque, qui est assez vaste. Des livres, plein de livres oubliés que je remonte à la surface.
Et je crois qu'effectivement, il y a eu une période qui a duré au moins 10 ans où il fallait remonter. Donc avec Rabelais, il y avait la grande cave ou le grand grenier, ça y était. Mais réappréhender Racine et Bossuet et réappréhender le 18e et retraverser qui est la correspondance de Flaubert et tout ça. Là, pour moi, il y avait un truc systématique. La notion d'autodidacte, pour moi, elle n'existe pas en littérature. On a tous à faire, évidemment, ce chemin d'initiation, de réunion, tout ça. Et je crois qu'après, par contre, il y a un moment donné aussi où... comment dire ? Je réouvre Kafka, et pendant 3 semaines, 1 mois, Kafka va être là. Quelquefois, je lis 10 lignes, et puis ça suffit, mais je ne les lis pas comme avant, ces 10 lignes. Puis il y a tous les ans, il y a un moment, tiens, ben, c'est passé 15 jours dans Balzac, on en lit un tous les soirs, ou lire, se refaire un Stendhal, ou tout ça. Donc ça, évidemment, cette lecture-là, elle est là. Je crois que depuis 2 ans, la perturbation quand même du support de lecture est quand même importante. Là, au Québec, bon, il y avait les livres par exemple, Gabriel Roy, Découvrir les Québécois. Oui, ça, on se retrouvait dans un schéma. Je vais à la librairie, Olivieri, à Montréal. J'achète un livre, je reviens, je lis le livre. Bon, là, j'étais dans un schéma classique pour les Québécois. Mais pour ma bibliothèque, elle était dans la Sony. Donc, si je veux du Proust, du Balzac, ou du Jules Verne, ou du Saint-Simon, c'était tous les soirs lire avec ce petit machin de plastoc de 300 grammes. Là, j'ai retrouvé ma bibliothèque. Le réflexe de lire, par exemple, sur l'iPad, pour moi, il est... Quelquefois, je préfère cette... Voilà. Je préfère cette aventure de lire où je suis dans un appareil qui me permet de quitter le livre. Avec, pour moi, un axiome neuf. Plus on pousse à quitter le livre... Enfin, plus on peut quitter le livre, plus on a envie d'y revenir autrement. C'est-à-dire, être dans l'iPad, même lire un Balzac... Je vais avoir envie d'aller passer voir le lieu. Et le lieu, j'y ai accès par la connexion. Je vais aller envie d'aller voir même des noms mineurs d'auteurs ou de revues. Je peux entrer dans le site de la BNF et revenir. Et je crois que maintenant, enfin, je suis dans cette vraie expérience-là avec ce petit outil-là. Alors, et en même temps frustré parce que les contenus que je voudrais, Henri Michaud, Julien Gracq, Saint-John Perse, je ne les ai pas en numérique.
Enfin, avant de rentrer, je lève la tête. Un ciel noir s'étendait partout avec beaucoup d'étoiles. Je m'y abîmai. Ce fut extraordinaire. Extraordinaire. Instantanément dépouillé de tout comme d'un pardessus, j'entrais en espace. J'y étais projeté, j'y étais précipité, j'y coulais. Par lui happé violemment, sans résistance. Prodige jamais soupçonné. Pourquoi ne l'avais-je connu plus tôt ? Après la première minute de surprise, il paraissait tellement naturel d'être emporté dans l'espace. Et pourtant, combien de fois n'avais-je pas regardé d'aussi beau et de plus beau ciel sans autre effet qu'une vraie et vaine admiration. Admiration, 2 points.
Admiration.
Antichambre, rien qu'antichambre.
Rien qu'antichambre.
Une fois de plus, je le vérifiais. C'était ce que je vivais, bien autre chose que de l'admiration.
Un registre tout différent.
Alors effectivement, en ce moment, je flotte. Par exemple, l'idée de lire le web, c'est une idée neuve, c'est-à-dire se balader sur le web, n'importe quel clown peut faire ça. On sait parfaitement passer... qu'est-ce qu'on sait perdre son temps sur le web comme traîner 3 heures de trop au bistrot? Et en même temps, lire le web, pour moi, c'est une... Ouais, souvent, par exemple, c'est le dimanche matin. Aller voir ce qui s'est passé dans les blogs que j'ai pas forcément eu le temps de regarder. Moteur diesel. Donc, quelque part, assumer le fait qu'on soit dans la lecture comme un radeau bien secoué sur une espèce d'eau glauque dont on ne sait pas où elle va, avec les dangers que ça représente. Par contre, oui, garder une discipline. Tous les soirs, j'ai mes 40 minutes de Saint-Simon. C'est religieux, j'y trouve toujours mon compte. Et que ce soit là, sur la Sony ou dans le Pléiade, peu importe. Dans ma tête, ça a toujours été à voix haute. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'est-à-dire que lire un livre, j'allais dire que je pourrais le lire sans les yeux, ce qui est absurde. Parce qu'il y a forcément une interface comme ça de... Mais en même temps, ce qui fatigue, c'est les oreilles. Et en même temps, moi, ce qui me fascine dans le truc, c'est... peut-être que c'est mon propre rapport au visuel, mais c'est par la phrase que se construisent les paysages. Et tout ça. Mais ça a toujours été un travail d'aveugle et un travail de... qui passe d'abord par l'auditif. Les périodes qui sont pas souvent, où vient l'écriture du premier jet... Ça dure 50 minutes, et ce qui fait mal, c'est les oreilles. Ça va jusqu'aux acouphènes. Et je crois que j'ai pris les marques de ça. En fait, mon premier bouquin, c'était en 82. Le grand choc de ça, ça a été Berlin, Valère Novarina. Première fois que j'entendais Valère lire. Et là, tout d'un coup, ça s'est tout mis sur place... bon, comme un espèce de gros truc informe qui était tout par terre, et tout d'un coup ça tenait droit. Parce que quand Valère lit, tout ce qu'on entend. Et quand Valère lit, il n'y a pas un autre chose de la littérature. Elle est complète dans l'instant de sa profération, dans la tension corporelle, dans la masse de choses qu'on entend, de cette pluralité des parlers, des souvenirs de fables, des souvenirs. Tout d'un coup, quelqu'un transmettait cet art, quoi.
Dieu qui m'avait amené ici. Écoutez mon silence, si j'ai dit.
Tout ce que j'écris est très oral, lié à la voix et au phonème, à la prononciation haute voix, mais je ne lis absolument jamais mes textes à haute voix. C'est la haute voix est intérieure, elle n'est pas extériorisée dans l'espace.
À partir de ce moment-là, je crois que j'ai aimé aussi, enfin que j'ai... initier, être soi-même lecteur. Là, ça correspondait au moment où, en 90, il y avait le 500e de Rabelais, il y avait mon bouquin sur Rabelais. Donc, lire Rabelais en public, ça a été aussi une école...
Rencontrâmes l'île des papes filles.
J'aime toujours ça.
Lesquelles jadis
quand je l'ai pas fait depuis 2 mois...
Et les nommait-on gaillardés.
Au Québec, ça me faisait... Ça m'emmerdait vraiment parce que c'est un pays
l'occasion
très grand mais avec peu d'habitants.
Un jour de
donc
fête
les auteurs, les rendez-vous d'auteurs, c'est des tables rondes, c'est des trucs avec peau de fleurs. On ne considère pas que l'auteur a lire à haute voix. Qu'est-ce que ça me manquait, quoi. Quelque part, dans Baudelaire, j'ai trouvé plein de trucs aussi. Rimbaud, lui, il recopiait ses textes sur des cahiers et... La transmission se faisait pour la première fois par des choses recopiées sur des pages. Baudelaire, il arrêtait ses amis, il sortait les papiers de sa poche et il lisait à haute voix les derniers trucs. Proust, par exemple, dans l'article sur Baudelaire, c'est incroyable. Il fait 40 pages, il raconte 40 pages Pléiade, donc c'est énorme. Il y a plein de citations de Malherbe, de Racine, de Lamartine, de Musset, de Hugo et tout. Et au bout, il dit « On m'excusera d'éventuelles inexactitudes, j'écris depuis mon lit d'hôpital. » C'est-à-dire que la mémorisation de la phrase, c'est-à-dire là où justement ça passe par la voix, c'est quelque chose qui vient jusqu'à Proust, quoi. Il n'y a que nous qui l'avons perdu. Donc après, je ne sais pas quoi. Peut-être qu'en ce moment, on vit aussi autre chose parce que on a tellement associé notre propre histoire à celle du livre qu'on commence à redécouvrir que ça a été qu'un épisode finalement extrêmement bref, quoi. Qui n'est pas clos, évidemment, mais où notre travail, c'est-à-dire de, autant là, comme ça, ce qu'on prend visuellement, ce qu'on travaille comme ça sur les signes de la ville, et qu'on restitue dans nos textes aussi avec du visuel, y compris maintenant en intégrant le visuel dans la matière même du texte, c'est la matière orale de sa profération, y compris de la notion d'improvisation, c'est-à-dire d'être en situation de le travail du conteur. Ça, moi, bizarrement, je l'ai trouvé assez tardivement avec... Après mon bouquin sur les Stones, où tout d'un coup on est devant des gens et puis lire le texte, bon c'est bien, je lis des passages, et en même temps entre les passages, tout d'un coup on restitue le contexte. Et avoir à s'aventurer comme ça dans l'idée de raconter des histoires, et puis raconter des histoires pouvait être en continuité parfaite avec le travail écrit qu'on avait fait sur ces mêmes points. Et maintenant je pense que, par exemple, si je fais un cours ou une conférence, j'ai un plan, et des endroits c'est marqué thème d'impro, ça. Et si je suis en lecture, pareil, je crois qu'il y a toujours un moment où c'est arrivé à ce que les bases organisées du texte dont on est sûr, tant qu'on peut être sûr d'un texte, mais où les repères qu'on a pris sur s'engager comme ça dans l'intérieur d'un texte pour avancer, on va se reconstruire soi-même dans une intensité ou quelque chose qui va faire qu'à un moment donné, on va pouvoir proférer à neuf, comme si on écrivait. Ça, enfin, pour moi, voilà, tout ça, c'est associé à l'idée de voix haute. Et je pense qu'on est honteusement sous-exploité. Un des grands bonheurs, c'est de dire... venir dans une bibliothèque ou venir, je sais pas, dans une école, mais ça se compte sur les doigts de la main dans une histoire. C'est-à-dire, je vais vous lire et parler Kafka, je vais vous lire et parler Balzac, ou lire et parler Agrippa d'Aubigné, tout ça. Et ça, on dit, non, la littérature, c'est les profs qui transmettent, et puis vous lisez vos textes, et quelque part, qu'est-ce que je voudrais avoir, que cette idée du être le conteur de littérature ?